Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette table ronde, donc Jean-Denis, Ludovic et Sébastien, de m'avoir invité à vous présenter mes travaux aujourd'hui. Donc, pour me présenter très rapidement, je suis une préhistorienne spécialiste des industries lithiques du paléolithique supérieur ancien, en particulier le Vérabessien. Mais je suis également, d'une certaine façon, bioinformaticienne en tant que spécialiste des industries, des modélisations de niches écologiques. Donc, dans mes recherches, j'essaye de combiner ces deux disciplines de la préhistoire et de la macroécologie pour examiner les relations entre humains et environnement, notamment au paléolithique supérieur. L'homme et son environnement sont une composante essentielle des sociétés humaines et comme toutes leurs composantes, elles présentent une diversité d'expression au travers de différents groupes humains. Ainsi, notre façon d'habiter le monde et d'interagir avec les éléments non humains du monde conditionne profondément notre organisation sociale. Ces aspects ont par exemple été étudiés par l'anthropologue Philippe Descola, dont les premiers travaux ethnographiques ont porté sur les hachoirs. Donc, c'est une population de gibarous vivant dans la forêt amazonienne qui ont une relation aux non-humains radicalement différente des sociétés occidentales, en cela que leur représentation du monde ne repose pas sur la traditionnelle dichotomie nature-culture de notre société. En effet, pour les hachoirs, il est possible de nouer des relations sociales avec des êtres non-humains, en cela que ces derniers possèdent une intériorité analogue aux humains qui ne se traduit pas par une analogie physique. Donc, les travaux de Descola et d'autres anthropologues spécialistes des relations humain-environnement nous suggèrent donc que celles-ci peuvent prendre des formes très diverses dans le monde actuel et subactuel. Et donc, en tant que préhistorienne, j'ai trouvé légitime de me demander comment se manifeste cette diversité dans les populations humaines du passé lointain. Toutefois, le registre archéologique est, comme vous le savez tous, très fragmentaire et ne nous permet qu'une reconstitution partielle et floue des sociétés humaines du passé. En revanche, elle nous offre une échelle de réflexion spatio-temporelle beaucoup plus large que l'anthropologie classique. Prenons l'exemple du paléolithique supérieur européen. Donc, cette partie de l'histoire culturelle des humains est caractérisée par une chronologie longue de 40 000 ans sur le continent européen, qui est historiquement subdivisée en grandes cultures archéologiques. C'est grandes cultures, entre guillemets, sont définies principalement par les caractéristiques typologiques et parfois technologiques des industries en silex, c'est-à-dire les types d'outils et leurs méthodes de fabrication. Ces industries sont a priori en Europe de l'Ouest l'apanage d'Homo sapiens exclusivement. Cette longueur de temps peut être mise en parallèle des évolutions climatiques que l'on appelle sous-millénaires, c'est-à-dire la variabilité du climat qui est principalement liée aux interactions entre l'océan et la calotte glaciaire. Cette variabilité se manifeste par des épisodes froids, qu'on appelle les stadiaires du Groenland, ici, et par des épisodes un peu plus cléments, donc les interstades du Groenland. L'échelle de ces changements climatiques est donc comparable à la chronologie des traditions techniques du paléolithique supérieur, ce qui nous autorise une réflexion autour des potentielles relations entre évolution climatique et culturelle à cette échelle. Toutefois, la simple corrélation chronologique entre des changements culturels et climatiques est d'après moi problématique, car elle implique une forte connotation déterministe. En effet, lorsqu'un changement dans la culture matérielle se produit dans le même timing qu'un changement climatique, le premier est souvent mis en relation causale vis-à-vis du second. C'est-à-dire que le changement climatique implique un changement culturel. A l'inverse, lorsqu'un changement dans la culture matérielle intervient dans une période de stase climatique, on en déduit une décorrélation entre culture matérielle et évolution climatique. Ainsi, cette façon de procéder favorise des hypothèses monocausales qui, d'après moi, restent trop simplistes pour qualifier les relations entre les humains et leur environnement. C'est donc suite à ce constat que la modélisation de niches écoculturelles s'est développée, donc terme utilisé pour la première fois en 2006 par William Banks et collaborateurs, dans un article présentant l'application de la modélisation de niches écologiques à des données culturelles en archéologie. Plus tard, en 2013, un article est publié pour proposer un cadre théorique et méthodologique plus détaillé autour de l'utilisation de cette approche pour analyser les mécanismes influençant l'évolution des trajectoires culturelles au paléolithique. Suite à cet article, il y a eu au final assez peu de travaux revenant sur ce cadre, sur ses contours et ses limites. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur les concepts à la base de cette approche et sur son intérêt pour l'étude des relations entre humains et climat à la préhistoire. Donc, la première question que l'on peut se poser est comment conceptualiser une niche écoculturelle ? Qu'est-ce que ça signifie ? Donc, pour cela, revenons tout d'abord au concept de niche écologique formalisé dans les années 50 par le chercheur George Evelyn Hutchinson. La niche écologique, d'après lui, d'une espèce S, c'est-à-dire une abstraction de ses propriétés écologiques intrinsèques, c'est un hypervolume de n dimensions au sein duquel chaque point correspond à un état de l'environnement qui permettrait à l'espèce d'exister indéfiniment. Donc, pour prendre un exemple très simplifié, si l'on prend un espace environnemental composé d'une seule dimension environnementale, imaginons par exemple la température, la possibilité de survie de notre espèce, qu'on appelle le fitness, correspond à une courbe de ce type. C'est-à-dire qu'on va avoir donc une zone où elle ne survivra pas, n'existera pas, et des valeurs de cette dimension dans laquelle l'espèce va pouvoir exister. Cette définition a en réalité de nombreuses implications théoriques qui ont fait l'objet de plusieurs développements, controverses, discussions depuis 70 ans, donc je ne vais pas développer ici, mais notamment il y a beaucoup de discussions autour de la prise en compte par exemple des relations interespèces dans la définition de cette niche, la disponibilité des environnements, ou encore la prise en compte du gradient de fitness qu'on observe expérimentalement, c'est-à-dire qu'il y a des environnements dans lesquels l'espèce va être, entre guillemets, plus heureuse que dans d'autres au sein de sa niche. C'est donc dans les années 90 que des outils informatiques plus sophistiqués ont commencé à voir le jour pour tenter de modéliser les niches à partir notamment de la répartition géographique des espèces. Donc cet ensemble de méthodes est appelé la modélisation de niches écologiques corrélationnelles et a cherché à contribuer à diverses problématiques en macroécologie comme la conservation, la détection d'espèces, l'évolution, la paléoécologie, etc. Donc le principe général de ces approches est de corréler la répartition géographique d'une espèce, donc des points d'occurrence qui correspondent à l'observation de la présence ou de l'absence de l'espèce à un instant T, avec des cartes de variables environnementales qui sont issues de modèles climatiques. Donc avec ces données, on va utiliser un algorithme prédictif plus ou moins complexe pour théoriquement reconstituer la niche, c'est-à-dire les conditions écologiques d'existence de l'espèce. Donc pour récapituler, la modélisation de niches écologiques offre différents outils permettant de repérer des corrélations complexes entre l'occurrence d'une espèce et les conditions environnementales. Et si l'on remplace les données d'occurrence biologique par des occurrences de traits techniques ou culturels, on peut donc théoriquement reconstituer la gamme environnementale dans laquelle ces traits ont existé à un instant donné. C'est ce que donc j'appelle la niche écoculturelle. Cette enveloppe environnementale peut ainsi être considérée comme une caractéristique associée à une tradition technique ou culturelle, et non comme des conditions intrinsèques d'existence. En d'autres termes, on identifie les environnements dans lesquels les humains employant certains traits culturels ont vécu à l'échelle de leur répartition géographique. La définition de la niche éco-culturelle permet ensuite de vérifier si des différences de répartition géographique traduisent effectivement différents environnements, ou encore si un changement culturel est associé avec un changement des conditions environnementales qui sont effectivement occupées par les populations avant et après ce changement. Prenons ici un exemple fictif. On a là une trajectoire culturelle, fictive, qui est divisée en 7 temps, auxquels des dynamiques de niche ont été associées. Donc ici, par exemple, on peut observer dans une période de stabilité climatique un changement de niche qui se traduit par une contraction dans l'espace environnemental ainsi qu'une stase de la niche. En analysant ces différentes dynamiques, nous pouvons donc mieux intégrer l'environnement dans la caractérisation culturelle des populations passées. À présent, je souhaiterais vous présenter un exemple d'application de cette approche à la question de l'apparition, la généralisation et la disparition d'une tradition technique particulière de l'époque gravettienne que l'on appelle l'Uralcien. Donc, tout d'abord, revenons très rapidement sur la définition du gravettien. Donc, c'est un grand complexe culturel qui s'étend entre 34 et 26 000 ans calibrés avant le présent. Et les groupes humains de cette période ont pu être perçus comme partageant certains traits culturels originaux à travers l'Europe, comme par exemple ce type de pointe que l'on appelle les pointes de la gravette, ou encore un type d'expression graphique dans la représentation des figures féminines que l'on appelle les Vénus, ou encore des pratiques funéraires caractérisées par l'inhumation. Toutefois, cette apparente unité gravettienne est régulièrement remise en question par la grande variabilité chronogéographique d'autres éléments de la culture matérielle, comme les industries lithiques et osseuses. Et donc c'est par exemple le cas du Uralcien. Le Uralcien est principalement défini par une méthode de production d'éléments d'armature spécifiques que l'on appelle la méthode du Reist. Celle-ci repose sur un débitage unipolaire latéralisé qui suit systématiquement le même schéma sur une grande variété de supports. Cette méthode permet d'aboutir à des lamelles fortement standardisées, que l'on appelle les lamelles de la Picardie, et qui nécessitent ensuite très peu de modifications pour aboutir à l'élément d'armature finale. Cette méthode opératoire représente une rupture conceptuelle majeure par rapport aux autres méthodes de production de pointe à dos qui sont utilisées par l'époque, la tradition qui précède l'Uralcien, le Noaïen, et la tradition qui la succède, le Gravettien récent. En effet, ces méthodes aboutissent à des supports généralement moins standardisés qui requièrent donc un plus fort investissement dans le façonnage de la pointe par la retouche du dos. Le Uralcien semble donc correspondre à une tradition technique régionale, étant donné que sa répartition géographique est relativement restreinte, donc ici au nord de l'Aquitaine et au sud du bassin parisien principalement. A l'inverse, la répartition géographique du Noaïen est beaucoup plus étendue vers le sud, et sa chronologie est beaucoup plus complexe. En effet, elle ne semble pas avoir la même durée d'existence dans toute son étendue géographique. Par exemple, le Noaïen est remplacé par le Uralcien dans le nord de l'Aquitaine autour de l'événement de Heinrich III, mais semble perdurer jusqu'à la fin du Gravettien dans la région pyrénéenne. En ce qui concerne la transition entre le Uralcien et le Gravettien récent, elle semble se produire lors d'une amélioration climatique que l'on appelle le GI4. La répartition géographique du Gravettien récent est également plus étendue que celle du Uralcien en incluant des territoires plus septentrionaux. Donc, se basant sur ces différentes données, de nombreuses hypothèses ont été proposées pour expliquer l'apparition et la disparition de cette tradition technique si originale qu'est le raïcien, en invoquant souvent des facteurs purement environnementaux ou culturels. Ces hypothèses monocausales, donc, n'avaient en réalité jamais été testées avec une approche qui prenne vraiment en compte les environnements associés à cette tradition. Dans mes travaux précédents, j'ai donc exploré à quel point l'histoire du raïcien est liée à l'occupation d'environnements particuliers par rapport aux traditions qui le précèdent et le succèdent, en utilisant l'approche de la modélisation de niches écoculturelles. Pour mettre en œuvre cette approche, j'ai mis en place un protocole permettant d'évaluer la fiabilité des données archéologiques qui ont servi à estimer la répartition géographique des différentes traditions, et j'ai également utilisé un algorithme permettant de modéliser la niche sous une forme convexe dans l'espace environnemental. Donc je ne vais pas détailler ici ce processus, parce que je préfère utiliser le temps qui me reste pour vous exposer directement mes résultats et interprétations. Donc, commençons d'abord par les dynamiques de niche au sein du Gravissien moyen, donc entre Noaïen et Raïcien. Tout d'abord, nous pouvons constater, ici sur ce graphique, une contraction de la niche du Raïcien par rapport à celle du Noaïen, ainsi qu'un très fort recouvrement entre les deux. Ceci nous suggère donc une spécialisation de la niche du Raïcien sur des environnements qui sont moins variables, mais qui sont toutefois contenus dans la variabilité de la niche du Noaïen. Toutefois, si l'on compare les environnements associés à deux territoires culturellement différents, donc le nord de la Garonne, où le Noaïen est remplacé par le Raïcien, et les Pyrénées, où le Noaïen continue d'exister jusqu'au Gravissien récent, nous pouvons voir ici un scénario légèrement différent. En effet, la niche associée au Gravissien moyen du nord se contracte et se déplace dans différentes dimensions. Cela montre que certaines parties de la niche ne sont pas partagées dans l'espace environnemental, ce qui suggère des spécificités donc associées à la distribution de ces deux traditions à l'échelle du Gravissien moyen. En parallèle, les études archéozoologiques dans les années 2010 ont mis en évidence que les groupes pyrénéens chassaient une grande diversité de proies, tandis que les groupes plus septentrionaux chassaient principalement le renne à cette époque. Ces données sont donc au final assez cohérentes avec les dynamiques de niche que j'ai mises en évidence. Au nord de la Garonne, on a une spécialisation du système de production d'armatures lithiques vers les lamelles de la Picardie, qui est concomitante avec une spécialisation de la niche sur des environnements spécifiques, ainsi qu'une focalisation de la chasse sur le renne. A l'inverse, dans les Pyrénées, les stratégies de chasse et technologiques semblent plus généralistes et sont associées à l'exploitation d'une niche plus large et plus variable. Ces résultats nous suggèrent donc que l'émergence du raïcien au nord de la Garonne pourrait être corrélée avec un changement dans les stratégies de subsistance ainsi que les spécificités environnementales de chaque territoire. Mais on se pose la question de la généralisation de cette méthode. Pourquoi est-ce qu'elle a remplacé au final les méthodes de production de Pointe-à-Deau ? Un facteur important que je suggère dans mon modèle est notamment lié aux variations des différents biais de transmission culturelle au fil des générations. En effet, il n'est pas possible qu'une méthode est plus efficace dans un contexte environnemental plutôt qu'un autre, car de nombreux environnements sont partagés entre le Noaïen et le Raïcien, comme nous l'avons vu juste avant. De plus, les Pointe-à-Deau sont tout à fait adaptées à la chasse du renne, puisqu'elles sont utilisées par la suite au Gravissien récent, qui présente également une spécialisation importante sur le renne. Ainsi, il est possible que les armatures du Raïcien aient en quelque sorte gagné en popularité dans un contexte de prévalence d'un biais de transmission qu'on appelle de nouveauté. Donc c'est un biais qui prédit que les personnes auront tendance à copier les traits culturels plus rares, par rapport au biais de conformité dans lequel les personnes ont plutôt tendance à se conformer aux traits culturels le plus répandu dans les traditions de la population. En outre, le fait que cette tradition technique ait été plus géographiquement restreinte a pu être accentué par un isolement démographique entre les Pyrénées et le nord de la Garonne en raison de la présence d'un désert périglaciaire au niveau des Landes. À présent, concentrons-nous sur la transition entre le Gravissien moyen et récent, qui est caractérisée donc par la disparition du Raïcien et le retour à des méthodes de production de pointe à dos moins rigides. Mes résultats ont montré que la niche écoculturelle du RVC intéressant est caractérisée par une expansion dans l'espace environnemental par rapport à celle du raïcien. De plus, la variabilité de la niche du gravissien récent est plutôt influencée par des variables de température, tandis que la niche du raïcien se développe plutôt selon une tendance opposée. Ces dynamiques de niche sont finalement assez cohérentes avec le modèle d'interprétation actuel des adaptations territoriales du gravissien récent dans le nord de la France. En effet, dans cette région, les peuplements humains sont discontinus, car les sites archéologiques ne sont retrouvés que dans des paléosols qui correspondent au développement de végétation dans des conditions plus chaudes. Entre ces paléosols, d'importantes accumulations de leux sont le signe de conditions plus froides et sèches, dans lesquelles on ne retrouve pas de sites archéologiques et très peu de sites paléontologiques. Ce changement écologique a été mis en parallèle avec les dynamiques de pergélisol, qui sont généralement en partie liées à l'augmentation des températures hivernales ou à des périodes d'été plus longues qui favorisent la fonte du pergélisol, entraînant ainsi des conditions plus clémentes au développement de la végétation. Ces données nous montrent donc que le GI4 a probablement été à l'origine d'importantes réorganisations des ressources dans le paysage, et une telle instabilité environnementale peut avoir une influence sur les biais de transmission. Notamment, il a été démontré que ce type de contexte peut conduire à une prévalence plus faible du biais de conformité. Cette conformité dans la transmission était probablement cruciale pour la pérennisation de la méthode du RICE au fil des générations, en raison de sa chaîne opératoire extrêmement normée qui reposait sur des détails techniques très spécifiques. Un autre facteur qui a pu influencer cette disparition est notamment l'inclusion de ces nouveaux territoires, qui est plus probablement le résultat d'un choix collectif plutôt qu'une nécessité intrinsèque. Cette expansion géographique a pu donc fragmenter les populations, ce qui aurait déstabilisé l'organisation sociale sur laquelle reposait la transmission de la méthode du RICE et favorisé ainsi sa disparition progressive. Donc pour conclure, la principale contribution de mes précédents travaux a été de proposer une approche interdisciplinaire aux relations humain-environnement pour le gravissien moyen et récent, combinant des données archéologiques et des méthodes dérivées de l'écologie. En conséquence, le scénario interprétatif que j'ai proposé est plus nuancé que les interprétations précédentes, qui favorisaient le déterminisme environnemental ou bien des choix purement culturels. Ce modèle intègre donc un modèle de relation humain-environnement qui peut être mis en parallèle de la culture matérielle, en l'occurrence des façons de produire des armatures de chasse. En perspective, j'aimerais rebondir sur l'ouvrage donc, au commencement été de David Graeber et David Wingrove, qui place une emphase particulière sur la possibilité de sociétés à l'organisation politique saisonnière au paléolithique supérieur. Donc, dans l'ouvrage, ils font notamment référence à des populations qui passent d'organisations très hiérarchisées à des petits groupes plus égalitaires en fonction de la saison, notamment en lien avec la disponibilité des ressources, comme par exemple les Crow, les Inuits ou les Non-Biqual. Et ces exemples soulignent la flexibilité qui peut caractériser la relation des humains avec les autres humains et les non-humains, même à une échelle annuelle. Or, cette flexibilité s'observe finalement assez fréquemment dans l'univers des niches écologiques, malgré la connotation fort intransigeante sur laquelle transporte. Et c'est par exemple le cas ici de la grive des bois. Donc c'est un oiseau au comportement saisonnier qui n'occupent pas les mêmes environnements en fonction de la période de l'année. Et il me semblerait donc très intéressant comme perspective d'explorer la flexibilité de cette niche écoculturelle et de voir donc dans quelle mesure une dimension saisonnière pourrait s'y intégrer. Donc je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, David. this question of seasonality, there's a danger of what we call reinventing the wheel. Because I think it was my colleague, former colleague, the prehistorian Ignacio de la Torre, pointed out to me that if you look carefully at Lewis Binford's early ethno-archaeological work, he was very directly inspired by the famous essay by Marcel Mauss and Henri Bouchat on the seasonal variations of the Inuit. So this was already built into processual models of the Paleolithic. But I suspect, rather like Mauss and Bouchat, he focused very heavily on ecological aspects of seasonality, perhaps rather less on the social aspects. But it's already there in all that stuff from the 1960s. So it's not really a question.
Moi, j'ai une remarque plus positive sur la saisonnalité d'abord, par rapport à ce qu'on révélait les travaux de Clément Paris sur le Paris Cervation, tu connais. Il y a peut-être effectivement des mouvements pendulaires liés à ces décès de conscience climatique tout particulières qui sont à prendre en considération dans l'affirmation sur Paris Cervation en France du Nord. Après, j'ai une question surtout. Est-ce qu'il y a un espoir d'intégrer dans le jeu de données les résultats paléogénétiques? Est-ce qu'il y en a suffisamment sur les populations humaines? Parce que les modèles que tu as développés me rappellent un tout petit peu, de façon bien affinée, hein, le modèle qu'on a pu développer sur le passage du Magdalénien à l'Atilien, sans prendre en considération tous les détails écologiques que tu intègres. Mais ce sont des modèles qui sont, comment dire, qui partent de logique endogène. C'est des sociétés qui se transforment. Voilà. Or, l'asilianisation, parce que je continue à y réfléchir, doit être, à mon avis, complètement réenvisagée à la lumière de données de mécanismes exogènes. C'est-à-dire des populations, quand même, importante en 14 000, et ça pourrait changer la donne. Dans ma génération, on avait mis de côté tout ce qui était diffusionnisme, etc., comme un facteur, bien sûr, on avait raison, sans aucun élément, et on sait bien à quel point la culture matérielle est dangereuse pour mettre en évidence ces mouvements de population. Et là, voilà, le fait est que ces jeux de données nouveaux vont peut-être complètement bouleverser certains. Donc, est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce que c'est suffisamment fin sur la période que tu étudies? Ça, je m'ignore. Et le cas échéant, est-ce que c'est un dégradé?
Alors, pour le Gravesien, les données génétiques, elles sont très. On en a très peu. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut intégrer. Un niveau de détail de, par exemple, pouvoir constituer des jeux de données d'occurrence à partir de poules génétiques dans certaines régions pour voir à quel point leur diffusion dans d'autres régions peut être liée à des facteurs écologiques ou pas. En revanche, je pense que c'est tout à fait envisageable pour des périodes pour lesquelles on a beaucoup plus de données. Et notamment, pour moi, l'intégration de toutes ces données, elle se fait vraiment au moment de choisir la répartition géographique à laquelle on veut associer donc des. Enfin, à laquelle on veut identifier une niche écologique, qui nous permet donc ainsi de savoir finalement quels sont les environnements associés à ces points d'occurrence pour voir s'ils se reproduisent ailleurs ou non. Voilà. En revanche, pour le Gravesien, les données génétiques qu'on possède pour l'instant, elles nous montrent quand même qu'on a une différence populationnelle entre notamment l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale et orientale. Là, par contre, à cette échelle d'analyse, donc à l'échelle vraiment continentale, sur des trajectoires plus longues que celles que j'ai analysées, je pense que ça peut être vraiment intéressant de comparer les dynamiques écologiques de ces deux régions pour voir notamment à quel point cette homogénéité populationnelle entre l'Europe orientale et centrale, est-ce qu'elle est également liée à une homogénéité des environnements écologiques ou pas? Et est-ce que finalement on a une différence fondamentale entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale?
Merci. Une question alors courte et réponse courte.
Je m'interrogeais, parce qu'en domaine continental, sur cette période-là, en fait, on est un peu justement d'enregistrements environnementaux, en tout cas des enregistrements discontinus. Du coup, cette reconstitution de ce grand palais depuis l'année au nord de la France, est-ce que c'est par rapport à la mobilisation climatique, c'est quoi les données qui sont en fait?
Oui, tout à fait. Donc, c'est des simulations issues de modèles climatiques. C'est effectivement pour moi une des difficultés de la modélisation niche écologique, c'est que elle se base elle-même sur des modèles climatiques qui aussi ont leur part de variabilité. Après, je prends soin de choisir des simulations qui correspondent au maximum avec, enfin qui ont été vérifiées au maximum avec des données de terrain. Un des résultats qui m'a un petit peu conforté, on va dire, dans l'utilisation de ces données, c'est notamment la concordance entre les dynamiques observées entre le gravissien moyen et le gravissien récent et les données de terrain, finalement les interprétations de mes collègues qui ont surtout eux travaillé sur les séquences de Leuze du nord de la France. Finalement, on est arrivé à un résultat qui coïncide d'une certaine façon. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qui m'a réconforté.
Merci beaucoup. C'est dommage de devoir arrêter parce que ça me paraît très riche et c'est très intéressant. Je pense que ça nous donne à tous des idées sur nos terrains pour des applications. Merci beaucoup en tout cas.
Merci.
Et je pense qu'on va.
Thank you.